Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et vous êtes bien toujours sur Radio Immo, Radio Territoria. Retour ici depuis le 8e arrondissement au Grand Palais qui accueille pendant 3 jours cette 5e édition du salon CIPCA, le salon bas carbone. Pendant 3 jours, nous recevons de nombreux invités ici pour échanger avec eux sur les enjeux évidemment de ce salon. Je suis ravi de recevoir Vincent Briand. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Vincent, vous êtes CEO, cofondateur de DeepKey, une société spécialisée dans la donnée et la performance environnementale des actifs immobiliers, c'est bien ça ?
Absolument. Nous avons 500, plus de 500 collaborateurs maintenant.
Répartis dans toute la France ?
Répartis en Europe et dans le monde.
D'accord.
Nos bureaux vont de New York jusqu'à Sydney, avec évidemment des bureaux aussi beaucoup en Europe, à Londres, Amsterdam, Danemark, mais aussi Berlin, Madrid, Milan. Et nous avons plus de 800 clients nous accompagnant dans tous ces pays.
Alors, on va parler évidemment de la conférence à laquelle vous avez participé tout à l'heure. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'intérêt pour DeepKey d'être présent sur ce type de manifestation-là ?
Le CIPCA donne une énergie positive.
Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'optimisme et ça fait du bien.
Et ça fait du bien de voir les solutions, de voir les acteurs engagés. Et c'est vrai que nous, acteurs de la décarbonation, on a peut-être une grille de lecture un petit peu différente dans un moment où l'immobilier est un peu morose, dans un moment où il y a beaucoup de recul sur les questions durables et environnementales. En réalité, nous, on voit les acteurs qui bougent au quotidien. Pour vous donner un exemple, on a des fonctionnalités qui aident à détecter les potentiels d'économie d'énergie et à suivre les travaux de rénovation sur les bâtiments à distance. Eh bien, en début d'année, on avait 17% de nos clients qui l'utilisaient. Aujourd'hui, c'est 42% de nos clients qui l'utilisent.
Il y a un vrai step.
Et on voit qu'il y a de plus en plus de projets de rénovation qui se mettent en œuvre pour suivre ces actions. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle.
Alors, vous avez débattu tout à l'heure sur scène, effectivement, où il a été question de marketing autour de l'IA. C'est quoi les deux, trois usages là qui apportent déjà une vraie valeur à un propriétaire ou à un gestionnaire immobilier grâce à l'IA ?
Déjà, la première chose, c'est que pour prendre des décisions, il faut avoir les bonnes données, avoir des données de qualité. Et ça, c'est compliqué dans un univers où tous les bâtiments sont différents, les données sont réparties entre beaucoup d'acteurs. Et ce que permet de faire l'intelligence artificielle, c'est une technologie complémentaire pour aider à la fois extraire de la donnée automatiquement, par exemple récupérer l'information sur des factures d'énergie ou des factures d'eau, mais aussi enrichir cette donnée. Nous, on a un algorithme de deep learning qui permet à partir d'images satellites de savoir quelle est la nature d'une toiture et savoir si des panneaux photovoltaïques ont été ou pas installés récemment. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça permet de comparer des choses qui sont comparables, de faire des analyses, de savoir quel bâtiment consomme moins, pourquoi il consomme moins par rapport à d'autres bâtiments similaires. Et ça, c'est la force aussi de tout ce qui est data analytics et machine learning. Et puis la dernière chose qui est vraiment l'aspect le plus intéressant, c'est la capacité à distance de réaliser des audits énergétiques virtuels pour savoir combien ça coûte et combien ça rapporte de décarboner un parc de centaines voire de milliers de bâtiments.
Et aujourd'hui, là, en 2026, que sait faire l'IA qu'elle ne savait pas encore faire il y a 3 ans ?
Un très bon exemple, c'est la capacité d'extraire de l'information, je le disais, dans les fichiers. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs avec les modèles. On était à 20-30% d'erreurs il y a 3 ans. Aujourd'hui, on arrive à 5%, 3% d'erreurs sur certains modèles. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. La deuxième chose qui est nouvelle aussi, c'est combiner ces modèles statistiques, ces modèles d'IA, avec des modèles de simulation thermodynamique, des modèles physiques. Et quand vous combinez les deux, vous avez le meilleur des deux mondes.
Alors, que peut faire, par exemple, dans un cas concret, l'IA, quand on a un bâtiment qui est très énergivore en termes de consommation ?
Déjà détecter que ce bâtiment, par rapport à d'autres, est énergivore et savoir quels sont les travaux nécessaires pour rénover le bâtiment. Est-ce qu'il faut mettre de l'isolation extérieure ? Est-ce qu'il faut changer la chaudière au gaz par une pompe à chaleur ? Quels sont le coût des travaux sur des bâtiments similaires ? Et quels sont les retours sur investissement qu'on a observés ? Pas théorique, on a observé sur des bâtiments similaires. Et ça, c'est grâce à l'IA qu'on a des données extrêmement déstructurées dans plein de documents différents qu'on arrive à faire. Ceci étant, attention, l'IA n'est qu'une technologie de plus, ce n'est pas non plus la panacée.
Oui, ça permet donc de faire des comparatifs finalement entre des actifs similaires et d'aller repérer finalement les anomalies, c'est ça ?
Exactement, comparer, obtenir les anomalies et chiffrer. Parce que, encore une fois, ce n'est pas si simple que ça d'identifier les bâtiments qui sont similaires et regarder quelles étaient les économies réelles obtenues sur les bâtiments similaires.
Alors, en m'intéressant un peu plus près à DeepKey, je vois que vous avez lancé des agents IA. qui sont capables de générer des scénarios de rénovation et d'en évaluer l'impact financier notamment, et tout cela évidemment hyper rapidement et en quelques secondes. Qu'est-ce que ça va changer concrètement aujourd'hui pour un asset manager qui doit arbitrer entre plusieurs centaines par exemple de bâtiments?
Concrètement, un asset manager, quand il étudie des dossiers et qu'il fait ses due diligence, plutôt que de visiter le bâtiment et de faire une étude avec un bureau d'études pour tous les dossiers qu'il va pour la plupart laisser tomber avant une phase de due diligence plus approfondie, et ben maintenant il peut le faire à partir de son ordinateur. Tiens, ce bâtiment, voici les informations que j'ai récupérées, il est en vente, je vais tout de suite voir quelle est sa performance et savoir quel serait le coût du plan de travaux qui est nécessaire pour améliorer la performance eu égard à mes objectifs à moi que je me suis fixé. Et donc ça permet d'économiser cette étape d'audit, de due diligence pour les prêts du deal, et ça permet aussi de massifier les plans d'action sur des patrimoines existants. Quand vous avez un patrimoine déjà de 400 bâtiments et que vous avez fait des audits il y a 5 ans, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et si vous devez refaire une campagne de 400 bâtiments à auditer, c'est compliqué. Et donc là, vous allez avoir en quelques secondes une analyse sur l'ensemble de votre portefeuille. Ça va vous construire les priorités, ça va vous construire ce qu'on appelle le merit order, par quel bâtiment il faut que je commence pour faire des économies, et ça va vous permettre aussi d'agréger tous les travaux pour savoir si, par exemple, vous devez négocier de l'achat d'éclairage auprès d'un fournisseur pour 10 bâtiments.
Et puis quelque chose qui est très précieux aussi, finalement, c'est un gain de temps.
Exactement.
On économise du temps.
Énormément. Après, ça ne se substitue pas non plus à une étude de faisabilité faite par un BE qui vient sur site, évidemment. Ouais. Mais pour toutes ces phases de réflexion, de planification stratégique, c'est évidemment un super outil.
Comment est-ce que vous réussissez finalement aussi à démontrer que vos outils qui ont pour usage l'IA, qui produisent réellement moins de consommation d'énergie ou moins de CO2? Comment est-ce que vous...
On mesure, on a non seulement des fonctionnalités de mesure et de vérification, mais on suit aussi des protocoles. Donc des protocoles, il y a le protocole international de mesure et de vérification des économies d'énergie et de carbone qui existe, ça s'appelle IPMVP. Donc on est certifié, donc on vérifie selon cette méthodologie. Et puis la donnée que l'on traite pour nos clients, elle suit des standards de qualité, notamment une certification qui s'appelle l'ISAE 3000 type 2, qui était jusqu'à présent, il y a 3 ans, dédiée uniquement à la finance, qu'on a utilisé pour les données environnementales et en particulier énergie et carbone. Et aujourd'hui, on est audité chaque année par un auditeur externe qui vérifie que l'usage des données pour le compte de nos clients suit les standards de qualité de la finance.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu le thème central de ce CIPCA, cette 5e édition, c'est le passage à l'échelle.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour... upgrader encore et puis finalement généraliser aussi l'utilisation des outils comme les vôtres?
Nous, on a la chance d'avoir, comme je vous disais, 800 clients et plus d'un million de bâtiments que l'on monitore dans 95 pays. On a la chance de travailler avec les plus gros acteurs, que ce soit en France, ICAD, Klépierre, mais aussi les Blackstone, BlackRock, Brookfield, KKR, PGM, etc. Et donc, on a accès à l'ensemble de leur portefeuille. Et ce qu'on voit, c'est que ces acteurs se font discrets dans leurs approches, ne communiquent pas beaucoup. En revanche, ils font et ils cherchent à faire de manière de plus en plus massive et de plus en plus systématique. Aujourd'hui, le goulot d'étranglement de la massification de la décarbonation, il ne se situe pas dans les données, il y a trop de données, il ne se situe pas dans la technologie, avec notre technologie, on arrive à répondre à peu près à toutes les questions de nos clients, il se situe dans la prise de décision et l'impact que ça a sur les valos. Donc là, du côté des experts, c'est encore un petit peu difficile. On fait 20% de notre chiffre aux États-Unis. Aux États-Unis, depuis un an, il y a une tendance qui s'appelle le NBA, Next Buyer Analysis, où les acteurs disent je vais anticiper, je prévois de vendre ce bâtiment dans 3 ans, je vais anticiper ce que les acheteurs potentiels vont me demander, et donc je vais mettre en place des travaux tout de suite pour ne pas avoir à négocier
l'actif à la baisse. L'IA, finalement, vient aussi accélérer peut-être la prise de décision.
Oui, l'IA permet d'accélérer la prise de décision, mais encore une fois, ce n'est pas la panacée. Ce qui est important, c'est la qualité de la donnée. Si vous n'avez pas une bonne donnée, l'IA va dire n'importe quoi. L'IA, ça pollue, l'IA, ça coûte cher, ça a des hallucinations. Et surtout, ce n'est pertinent que si vous avez la donnée d'entrée de qualité.
Il faut savoir prompter.
Alors ça, c'est le boulot de nos ingénieurs qui le font pour nos clients et qui proposent des prompts pré-écrits de manière à ce qu'il n'y ait plus qu'à cliquer sur le prompt pré-écrit.
C'est efficace, même si on n'a pas le même profil.
Oui, alors après, on n'a pas encore couvert tous les cas d'usage, mais on les rajoute au fur et à mesure. Et puis, on peut utiliser l'IA avec des boutons, c'est-à-dire une interface classique, ou on peut utiliser du prompt pur. Et ça, aujourd'hui, on fournit les deux dans nos plateformes.
C'est assez facile d'accès.
Il me semble, on a 80 000 utilisateurs et ils nous font régulièrement des retours pour améliorer, mais ils ne se mêlent pas trop.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites de la donnée qui est collectée?
On continue à la collecter, on la met dans un data lake anonyme et elle nous permet d'améliorer nos modèles.
Parce qu'en Europe, vous êtes soumis finalement à la RGPD aussi. C'est peut-être pas le cas partout dans le monde. Mais non. Pour le coup, comment est-ce que vous adaptez en fonction des demandes qui vous sont faites en termes de réglementation?
Oui, alors nous, on applique nous les standards réglementaires européens dans tous les pays. S'imposent ces standards-là. On n'est pas très très concerné par la RGPD parce qu'elle concerne que les individus.
Okay.
Et donc c'est essentiellement les logements collectifs, les lots chez les bailleurs sociaux ou les logements individuels qui appartiennent à des institutionnels, en Suisse ou aux États-Unis par exemple. En revanche, cette donnée, évidemment, s'impose des standards de sécurité et de qualité très importants. On est ISO 27001 certifié, SOC 2 aux États-Unis. Et on ne fait qu'un usage anonyme des données. On ne se permet pas de vendre l'information de nos clients, jamais.
Si vous avez un budget, on va dire nos limites, pour décarboner un bâtiment, ce serait quoi la première dépense finalement à faire ?
Ça dépend. Mais il y a 10 leviers pour décarboner un bâtiment. Si ce n'est pas qu'une question de budget, c'est une question de décision, de retour sur investissement. Mais si je suis ouvert sur le retour sur investissement, c'est immédiatement l'isolation. Ce n'est pas possible partout. Il y a des bâtiments qui sont vieux, des bâtiments qui sont protégés. Il y a des bâtiments qui... Et puis parfois, on est obligé de faire l'isolation par l'intérieur et on perd de la surface, donc c'est moins intéressant. Mais en tout cas, j'irai tout de suite sur l'isolation. J'irai aussi sur le remplacement des équipements. Il faut bannir toutes les chaudières au fioul et au gaz et passer aux pompes à chaleur, mais aussi tous les systèmes passifs, les volets, les brise-soleil, les ombrières, tout ça permet de faire de vraies économies et de la climatisation passive, et c'est très intéressant. Et surtout, on n'oublie pas les low-tech, parce qu'il n'y a pas que les high-tech, c'est important aussi le comportement des utilisateurs, les bonnes pratiques des mainteneurs, tout ça sont des leviers pour réduire l'impact des bâtiments sur le changement climatique.
Vous l'avez dit brièvement tout à l'heure, mais l'IA, c'est bien, ça permet d'accélérer des choses. Ça coûte aussi beaucoup d'électricité, ça consomme de l'électricité, ça consomme de l'eau.
Oui.
On utilise davantage l'IA donc, pour réduire les émissions du bâtiment, mais elle consomme elle-même énormément. Comment est-ce qu'on s'assure que, in fine, le bilan reste positif ?
Oui, alors, les ordres de grandeur faisant, il est largement. Okay. Nous, on fait chaque année le bilan carbone de notre entreprise, de notre activité.
Et donc,
le premier poste, c'est les transports. On est dans une industrie où on doit aller voir nos clients, on doit aller voir physiquement, visiter leur bâtiment. Non, pas beaucoup. Enfin, un peu, mais pas tant que ça.
Ouais.
Et donc, c'est le transport. Le deuxième, c'est les services. Et le troisième, c'est effectivement tout le cloud, dont l'usage de l'IA, quitte à un usage qui augmente énormément. La bonne nouvelle, c'est qu'on aide à faire beaucoup plus d'économies d'énergie et de CO2 à nos clients que ce qu'on consomme en IA pour utiliser l'IA. Ceci étant, je donne un exemple, il y a quelques semaines, il y a un de mes collègues qui est venu en disant « Waouh, regarde, j'ai fait un algo qui permet de changer la photo du bâtiment de nos clients pour le verdir. » Ça, on va laisser ça à la poubelle parce que ça n'apporte pas grand-chose comme valeur ajoutée et ça consomme des ressources. Et donc, on utilise l'IA de manière responsable pour aider les clients à prendre des décisions.
Vincent, justement, à propos de décision, quelle décision immobilière aujourd'hui vous ne seriez pas encore prêt à confier à l'IA ?
Oh, plein.
Ouais.
Notamment, faut-il ou pas acheter ce bâtiment ?
Mm-hmm.
Ça, je le laisse aux humains. Je pense que l'IA n'est pas du tout prêt pour ça. Il peut donner des indicateurs, il peut enrichir la réflexion, mais on ne peut pas lui laisser prendre la décision. Je pense que dans un certain nombre de cas de figure, il peut faire la régulation automatique du chauffage, de la ventilation, de l'éclairage, mais pas tous. Là, je mettrai aussi un bémol, ça dépend de quel usage on parle et comment est fait le bâtiment. Et puis surtout, je ne laisserai pas toute la partie humaine gérée par l'IA. Comme je vous disais, le comportement, les bonnes pratiques. C'est bien d'avoir un support IA, comme mettre en concurrence les utilisateurs d'un bâtiment pour faire des économies, de leur envoyer des messages, de discuter via l'IA avec un serveur, etc. En revanche, il faut mettre de l'humain. Nous, on est persuadé que la technologie high-tech fonctionne uniquement si on met l'homme au cœur, l'homme, la femme au cœur de ces changements.
Intelligence artificielle et intelligence émotionnelle, on va dire peut-être.
Oui, humaine. Ouais.
Voilà. Merci à vous.
Merci Jean-Baptiste.
Merci Vincent d'avoir répondu gentiment à mes questions. Merci également à vous de votre fidélité. On reste ici au Grand Palais dans le 8e à Paris où se déroule la 5e édition du salon CIPCA, le salon bas carbone. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone sur Radio Immo et Radio Territoria.